attention dressée au verset 9 et 10 et faire une lecture jusqu'au verset 23, car il y a là un ensemble que l'on ne peut pas couper.
L'auditeur est prié de se reporter lui-même à la lecture de ces versets qui a été supprimé sur cette cassette.
Nous allons tout de suite voir le verset 10 qui fait un peu charnière entre ce qui a précédé et entre l'ensemble que constituent les versets 11 à 23 sur l'amour fraternel. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu se font reconnaître par là, c'est-à-dire parce qu'ils pratiquent la justice. En réalité, la traduction littérale est préférable. Elle est beaucoup plus révélatrice de la pensée. Littéralement, manifestés au pluriel, sont par là les enfants de Dieu, les enfants du diable. Manifestés, l'accent est mis sur manifester. Et le terme manifester est mieux que l'expression se font reconnaître. Manifester, c'est un terme qui est davantage biblique d'abord, et puis qui nous permet tout de suite de mieux voir le fond de cette affirmation. En effet, nous savons que Dieu a été manifesté. C'est bien le terme qui convient et qui traduit l'idée biblique. Dieu a été manifesté en ce monde par l'incarnation. Je n'ai pas besoin de revenir au passage. Jean 1, 18 nous dit notamment que c'est Jésus qui, venant dans ce monde, a fait connaître le Père, l'a fait connaître ou l'a manifesté. La vie dans la justice des chrétiens, la vie dans la justice des chrétiens les manifeste, eux. Ils se trouvent manifestés par cette vie dans la justice dont Jean a parlé au-dessus, ci-dessus, n'est-ce pas? Or, en réalité, c'est Dieu qui est manifesté par la justice des disciples de Jésus. C'est Dieu qui est manifesté par eux. Hein? Dieu est manifesté. Ainsi, Dieu a été manifesté par l'incarnation, hein, je reprends, la vie dans la justice des enfants de Dieu, le mode de vie nouveau, qui est un mode de vie selon la justice des enfants de Dieu, les manifeste. Or, en réalité, c'est pas eux qui sont manifestés, c'est Dieu qui est manifesté en eux, par eux, hein, en raison de leur mode de vie nouveau. Cela, nous en avons la confirmation, ou plus exactement la déclaration, dans Jean 13, 20. En vérité, amen, amen. En vérité, c'est la traduction de amen. Amen, amen, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ça, méditons bien cela, parole du Seigneur, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé, c'est-à-dire mon disciple. Mon disciple, c'est-à-dire un membre de l'Église. Un membre de l'Église qui est reçu. Il est reçu chez quelqu'un, par quelqu'un. Eh bien, si ce membre de l'Église, bien entendu, manifeste la vérité, la justice, l'amour divin, ça s'il manifeste par sa parole, par sa manière de vivre, eh bien c'est Jésus qui est reçu. Et si Jésus est reçu, c'est Dieu lui-même qui est reçu. Voilà, n'est-ce pas, cette chose fantastique, extraordinaire, d'un humble disciple, et il faut qu'il soit humble, bien sûr, ce disciple, un humble disciple qui prend contact avec quelqu'un, ne vient pas là, n'est-ce pas, apporter des histoires de lui-même, des choses humaines. Il vient apporter, n'est-ce pas, le divin. Il vient apporter l'Évangile, dans sa réalité vécue même. Alors, à ce moment-là, Dieu est reçu. Ça, c'est grand, n'est-ce pas? C'est immense. C'est grand, vous savez, c'est grand. C'est excessivement grand. Et ça mériterait, n'est-ce pas, de passer des heures en méditation, ça. Hein? Je mériterais de passer des heures en méditation. Quand je vais chez quelqu'un, si je prends contact, n'est-ce pas, et je me laisse saisir par l'esprit du Seigneur, parce qu'il faut ça. Ben, c'est pas l'homme qui va apporter quelque chose, bien entendu, pas question de ça. C'est rayé, quel que soit l'homme. Il est un moyen. Il est tout simplement, n'est-ce pas, dans la soumission à l'esprit de Dieu. Voilà ce qui fait que l'homme peut être quelque chose et apporter quelque chose. Et alors, il vient, il prend contact avec des gens qui ne sont pas au Seigneur, il est reçu par ces gens, parce que ces gens, n'est-ce pas, leur cœur commence à s'ouvrir, leur cœur s'ouvre, leur cœur sent, n'est-ce pas, le bien qui s'approche d'eux, sent que Dieu s'approche d'eux, c'est Dieu qu'ils reçoivent. Dieu a deux catégories, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alors, si quelqu'un disait, ben, moi je veux pas être enfant du diable, je suis peut-être pas enfant de Dieu, j'hésite encore, mais je ne veux pas être enfant du diable. Alors il faudrait que l'on imagine qu'il se situe dans une catégorie intermédiaire, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'Écriture, n'est-ce pas, est formelle là-dessus, n'est-ce pas, les hommes sont ou d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas d'intermédiaire, comme l'a dit Jésus, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ben, c'est pas possible. Il n'existe pas de troisième catégorie, quelles que soient les différences entre les hommes. Il y a des différences entre les hommes. Je ne parle plus de l'Église, je parle des hommes en général. Il y a des différences. Il y en a qui sont agréables, il y en a quand même, n'est-ce pas, qui ne sont pas des turbulents, des impudiques, à outrance, des vaniteux, ou toutes sortes de choses. Il y en a qui sont dans le monde, même encore, qui sont vivables, même agréables, n'est-ce pas? Eh bien, cependant, quelles que soient ces différences, il n'y a point de catégorie intermédiaire. Le supposerait-il qu'il se tromperait, n'est-ce pas? L'amour dont il s'agit ici dans le contexte, je parle surtout de la fin du verset 10. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus, pas davantage, celui qui n'aime pas son frère. Et ici, le mot grec signifie, traduit, l'amour actif et réalisateur. Il ne s'agit pas d'un amour sentimental. Pas du tout. N'est-ce pas? Il ne s'agit pas de gentillesse, même de prévenance à l'égard des frères, qui pourtant sont choses recommandables, n'est-ce pas? Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un amour actif et réalisateur. Et c'est tout le contexte de Jean. Ce serait le mal prendre que d'imaginer qu'il s'agit pas d'un amour qui va se manifester par une sensibilité, par une affectivité, n'est-ce pas, entre frères. Ce serait quelque chose d'ailleurs qui n'apporterait rien et qui ne tiendrait pas. Il s'agit d'un amour actif. L'amour d'ailleurs est, l'amour de Dieu est l'accomplissement de la loi. Donc l'amour est un accomplissement. C'est quelque chose d'actif et de réalisateur, quelque chose qui réalise. Et cette réalisation semble se situer dans le texte de Jean, ici, autant dans le domaine social que dans celui des rapports fraternels et dans, naturellement, le domaine spirituel. Domaine social qui, dans le texte de Jean, dans l'épître tout entière, domaine social qui est là surtout pour montrer l'action dans le domaine spirituel. L'amour agapan, l'amour de Dieu, n'est-ce pas, selon le grec, est un amour qui se propose, étant donné ce monde, de le sauver. Plus tard, cet amour se proposera uniquement, n'est-ce pas, l'entretien, si je peux dire, de l'état de justice, de la perfection de cet ordre parfait qu'est l'état de justice. Mais pour l'instant, l'amour de Dieu, n'est-ce pas, part à ce qui est le plus pressé, si je puis dire, sauver les hommes, les sauver, non seulement les attirer par l'évangile à Jésus-Christ pour les faire passer de la mort à la vie, mais quand ils sont à la vie, de les maintenir dans la vie jusqu'à ce que Dieu les prenne. La vie est une puissance surnaturelle qui vient de Dieu par Jésus-Christ. Et la vie nouvelle va donc s'exprimer par un amour qui tend à faire vivre les autres. Pas autre chose, chers amis. À ça, pas autre chose. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Voilà l'amour. Et sans quoi, l'Écriture nous dira, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Ah, mais, attention, Dieu a tant aimé le monde, tant aimé les hommes, quels qu'ils soient, sans distinction. Il a tant aimé qu'il a donné son Fils comme victime expiatoire pour les sauver. Par conséquent, notre amour à nous, l'amour fraternel, même fraternel, entre frères, c'est un amour qui tendra à sauver. C'est-à-dire, lisons l'Écriture, édifiez-vous les uns les autres, n'est-ce pas ? Faites en sorte de ne pas être une pierre d'achoppement pour votre frère, pour votre sœur, n'est-ce pas ? Voyez-vous, vous aurez toujours le souci de la vie. Attention, nous dira par exemple l'apôtre, ton frère qui est peut-être une âme faible et pour qui le Seigneur est mort comme pour toi. Pour qui le Seigneur est mort comme pour toi. Ne sois pas pour lui une pierre d'achoppement. Et puis, l'Écriture nous dira aussi ceci, Paul, n'est-ce pas, animé par ce grand souci d'amener toute âme d'homme à la perfection, n'est-ce pas, et de la préparer pour qu'elle soit emportée, qu'elle entre dans le royaume éternel. Pas rendre toute âme d'homme parfaite, prête, ça veut dire prête, l'amener, n'est-ce pas, à cette préparation. Et ça, c'est alors le ministère pastoral qui est en vue, n'est-ce pas, et qui doit être bien exercé, lorsqu'il est bien exercé, doit être une manifestation majeure, c'est la manifestation même, disons, majeure de l'amour de Dieu, et nous le savons par ceci, Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, oui, oui, Seigneur. Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, tu sais bien de quoi qui sait toute chose, tu sais bien que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, je t'aime. Alors, paix, mes brebis, paix, mes agneaux. Ah, paix, qu'est-ce que ça veut dire ? Paix, il y a deux verbes qui sont là. Ça veut dire, aie le gouvernement de mes brebis et apporte nourriture à mes agneaux, à mes brebis. Apporte-leur. Il y a deux verbes dans le texte original pour paître. Et Jésus les a employés tous les deux. Et ensemble, il montre l'action du berger, n'est-ce pas, qui conduit les brebis dans les verts pâturages, mais qui les garde des loups ravisseurs, mais qui exerce une garde sur eux, une garde précieuse. Jésus disant, j'ai gardé. Père, j'ai gardé ce que tu m'as donné, mais je quitte la terre maintenant. Alors, Seigneur, maintenant, il faut que toi, tu les prennes en charge toi-même et que tu les gardes toi-même. Gardez, c'est dans le ministère, ça, pastoral. Gardez les âmes. Oh, chers amis, je voudrais pouvoir répéter ça, je sais combien de fois, à tout le monde et particulièrement à ceux qui exercent le ministère pastoral, qu'ils soient les pasteurs, des anciens ou autres, n'est-ce pas ? Parce que c'est tellement, tellement important. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, avons-nous lu. Celui qui n'aime pas est donc celui qui est récroquevillé sur lui-même. Il est récroquevillé, il est replié sur ses préférences, sur son affectivité. Et il se regarde lui-même, il se considère lui-même. C'est à partir de lui qu'il voit peut-être les autres. Mais, n'est-ce pas, ce n'est pas uniquement le but de l'amour de Dieu qui est de sauver les âmes. Tant par l'appel, par l'évangile qui appelle, que par l'évangile qui permet de paître l'Église. Quelqu'un qui se considère constamment lui-même n'est pas libre de regarder aux autres et de travailler au bien des autres par la seule voie qui nous soit donnée, il n'y en a pas d'autre, l'amour de Dieu. Au lieu de servir, celui qui n'aime pas les frères, au lieu de servir, fera tout pour être servi, pour recevoir ou prendre des avantages à son seul profit, alors que le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Mes amis, je le rappelle à vos cœurs cela, Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Pour servir, chers amis. On est venu pour cela. Nous sommes sur la terre pour cela. Si nous prétendons que nous avons de l'amour, eh bien servons, chers amis, servons. Il nous est dit ici que quiconque est son frère est un meurtrier. C'est-à-dire qu'il travaille à empêcher son frère de vivre. Il rompt le lien d'amour avec son frère et l'élimine pour sa part du corps. Il l'élimine du corps de Christ. Quelqu'un qui est, il s'agit de la haine, n'est-ce pas, ce sentiment fort, vif, violent même, eh bien, il rompt le lien d'amour, même s'il s'agit d'une haine qui ne soit qu'une inimitié. Il rompt le lien d'amour avec son frère, il l'élimine pour sa part du corps. Et cette élimination, vous me direz, mais elle est dans la pensée de celui qui est. Elle est dans son cœur, elle est dans sa pensée, elle est dans son cœur. C'est tout, n'est-ce pas? Il ne va pas prendre une arme et agir contre la vie de son frère. Non, non, non. Mais, cependant, il nous est dit ici qu'il est meurtrier. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Pourquoi est-il un meurtrier? Parce que s'il a éliminé son frère du corps, eh bien, cette élimination par sa pensée est aussi grave que le meurtre. C'est en somme un homicide mental. Un homicide mental. Il s'agit ici, n'est-ce pas, de haine, n'est-ce pas, d'inimitié, de haine. Et non pas, attention, ne sachons faire la part de toutes choses, l'Écriture est une, non pas des sages mesures à prendre dans l'intérêt même des frères. Et vous savez ce que Paul nous dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 5. Ben, j'aimerais vous relire cela, chapitre 5 de 1 Corinthiens, pour faire le départ, précisément, entre ce qui peut être l'inimitié contre les frères, qui est une chose mauvaise, un meurtre, tandis que cela n'exclut pas les sages mesures à prendre pour la sauvegarde précisément du corps de l'Église. Lisons un peu chapitre 5 de 1 Corinthiens. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Le livrer à Satan, ce n'est pas le livrer à la mort. Enfin, c'est le livrer peut-être un traitement dur, n'est-ce pas, mais puisqu'il n'entend pas la parole de Dieu, puisqu'il vit, n'est-ce pas, dans l'iniquité, dans le péché, constamment, il y est constamment, ce n'est pas accidentel, n'est-ce pas? Eh bien, il n'y a plus qu'une chose à faire, n'est-ce pas? Le livrer à celui qui est l'auteur du mal, pour que, étant malmené, souffrant, il puisse revenir au Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu de levain, n'est-ce pas? Dans l'Église, fait lever toute la pâte. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, votre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Eh bien, ce n'est pas là, n'est-ce pas, quelque chose qui fait échec à l'amour fraternel, mais au contraire, qui concourt à nous montrer que l'amour fraternel, c'est un amour qui est tant essentiellement comme l'amour de Dieu, par l'amour de Dieu, à la vie des autres. À la vie des autres. Et si quelqu'un vraiment, n'est-ce pas, dans l'Église, est un scandale, n'est-ce pas, eh bien, il faut l'ôter. Le Seigneur Jésus a dit que si quelqu'un provoque le scandale, et il a dit, il faut qu'il y ait, c'est-à-dire il y aura inévitablement des scandales, eh bien, il vaudrait mieux qu'on attache une meule de moulin à son cou et qu'on le jette dans la mer. Donc, n'est-ce pas, comprenons l'amour fraternel tel qu'il doit être compris. Celui qui est naturellement son frère ou qui a de l'inimitié sans aucune cause, il s'agit d'un frère qui n'est pas, lui, dans l'iniquité, ou plutôt au moins, n'est-ce pas, disons qu'il n'est pas un objet de scandale dans l'Église, n'est-ce pas, alors il le hait, il n'a pas raison, même s'il était un objet de scandale, il n'a pas à le haïr, notez. Mais ce frère qui est un autre frère se déclasse lui-même du corps. Et nous avons dans notre passage l'exemple de Caïn. Caïn est vu ici comme le représentant du monde qui est. Du monde qui est. Il n'a pas pu supporter auprès de lui le frère qui faisait des œuvres justes. Il n'a pas pu supporter davantage le regard favorable que Dieu accorda à ce frère, Abel. S'il avait admis les œuvres d'Abel, s'il avait été dit, eh bien, du moment que Dieu préfère les œuvres de mon frère Abel aux miennes, alors, s'il avait admis ça, il lui aurait fallu changer lui-même, il aurait été amené à changer dans sa pensée, dans son cœur, c'est ce que Dieu va lui proposer. Toi, domine sur le péché couche à ta porte, enfin, il est là, se tient à ta porte, eh bien, domine sur lui, il aurait fallu qu'il accepte les œuvres justes et les œuvres sanctionnées comme justes par Dieu chez son frère. Et Caïn n'a pas voulu cela. Il n'a pas pu laisser exister le frère juste. Il l'a tué. Il l'a tué comme le Christ juste a lui aussi, lui le juste par excellence, le véritable et le juste, a été mis à mort par ses frères. Haineux, c'est bien la haine qui a poussé le Seigneur Jésus dans la mort. Vous me direz, cela était écrit, il fallait que cela arrive, et cela pour nous est source de salut. Bien sûr, parce que Dieu change le mal qu'on lui fait à lui, qu'on fait à son Christ, ou qu'on fait à l'Église. Il change ce mal en bien. Ça, c'est une chose qui nous est enseignée. Mais il n'empêche que le Christ a été poussé dans la mort par ses frères haineux. Abel est la préfiguration de cela, n'est-ce pas? Caïn, selon sa haine, a précipité Abel, son frère, dans la mort parce qu'il ne pouvait pas supporter que ses œuvres soient justes et non les siennes, que Dieu ait donné un regard favorable à son frère et non à lui. Et c'est toujours ce qui a eu lieu, n'est-ce pas? C'est toujours ce qui va se faire. Et dans l'Église, nous aurons à souffrir de cette jalousie-là. Oh, nous aurons à en souffrir terriblement, chers amis. Vous me direz, mais comment dans l'Église, ça ne devrait pas exister? Ben, ça ne devrait pas exister. Nous sommes malheureusement sur la terre et nous sommes dans le combat. Nous bataillons, évidemment, et le diable essaie toujours de ramener, n'est-ce pas, dans l'Église, cette jalousie qui va disloquer le corps de Christ. Le séparer, le briser. Cette haine qui est vouée sans cause, le Seigneur Jésus a dit, ils m'ont haï sans cause, c'est-à-dire sans autre cause que le mal. Il n'y a pas d'autre cause que le mal. Cette haine vouée à Jésus sans cause le sera aussi à l'Église. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Et le Seigneur l'a dit, ils m'ont haï sans cause, ils vous haïront, vous, de même. Ils vous haïront parce qu'ils ne me connaissent pas. Ils ne veulent pas me connaître. Ils ne veulent pas venir à moi. Ils ne veulent pas me connaître. Leur être humain, leur être naturel n'a pas voulu se courber, se plier, n'a pas voulu s'humilier, n'a pas voulu recevoir vraiment le pardon des péchés après une authentique repentance. Pour la repentance, il faut vraiment s'abandonner à l'Esprit de Dieu, à vous et à la parole de Dieu. S'abandonner vraiment. Et c'est utile dans l'Église aussi, cela, la repentance dans l'Église. C'est utile. Eh bien, ils n'ont pas voulu cela. Alors que l'Église ne soit pas étonnée de ce que le monde vous la haïsse, car il a haï Jésus. Eh bien, nous continuerons l'étude de cette étude du même passage, parce qu'il n'est pas épuisé, loin de là, nous la continuerons demain matin.